Alors, saint Thomas d'Aquin de dire, eh bien, l'inceste entre frères et sœurs, le mariage entre frères et sœurs, avant qu'il soit interdit, c'était multiplication de l'humanité, amour entre égaux, mais manque de dons et de recherche d'aimer d'autres personnes qu'au sein de sa famille. Et d'aller de manière plus moraliste, et puis ça laissait une concupiscence, un désir sexuel dans la famille, qui n'était pas bon par rapport à la charité et à l'amour mutuel. Je passe, comme ça vous aurez eu un catéchisme méchamment complet. On arrive à Noé. Noé a 3 fils. Oh que c'est important. Sem, Cam et Japhet. Et ils sont de la spiritualité et de la religion d'Adam, de la tradition adamique. Et ils réprouvent ce que les descendants de Caïn font. Et ils sont monogames. Sem est marié et a une femme. Cam est marié à une femme et Japhet est marié à une femme. Mais la corruption de l'homme est telle que Dieu parle à Noé et lui dit : tu vas faire un bateau au milieu de la plaine et tu y mettras tous les animaux et tu y mettras tes 3 enfants avec leur épouse. Top ! Qu'est-ce qui est de foi ? Est-ce que le déluge a submergé toute la surface de la terre ? Ou alors il a submergé la plaine du Tigre et de l'Euphrate ? Est-ce que tous les animaux sont rentrés dans l'arche ? Ou seulement les animaux de la plaine ? Pour que Noé puisse continuer à vivre de l'élevage après le déluge. Et sauve une partie de la faune. Ça, c'est libre, figurez-vous. Top ! Qu'est-ce qui n'est pas libre et qu'est-ce qui est de foi ? Le déluge lui-même et le fait que Noé, sa femme, ses 3 fils et leur femme n'aient été que les survivants de ce déluge. 8 personnes ont survécu. Tous les autres sont morts. Nous sommes à environ 7 générations d'Adam. Avec des générations longues, il y a eu peut-être 10 000 morts, 5 000 morts, qui sait. Et Dieu a refondé l'humanité par rapport au péché qui se multipliait. Probablement faisait-il déjà des sacrifices humains, car c'est quelque chose qui est en horreur à Dieu. Et probablement adorait-il Lucifer, adorait-il les esprits. Et voilà que cette arche est terminée, en bois, bitumée, et que l'eau tombe pendant 40 jours, et qu'il attend. Vous avez cet épisode de la colombe, il la lâche, elle revient, et à un moment, elle rapporte un brin d'olivier. Ça veut dire que l'eau est tellement descendue que la cime des arbres est visible. La fin de la punition, du châtiment. Et à un moment, elle ne revient plus. C'est donc qu'elle a trouvé de la terre ferme. Et à la fin du déluge, il y a l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel qui est un signe de la fin de la punition et du châtiment. Alors voyez-vous, il y a quelque chose de mystique. Je l'enregistre, peut-être que j'irai en prison pour ça, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que je n'ai aucun mépris. Mais pourquoi le mouvement LGBT, lesbienne, gay, transsexuel et bisexuel, a pris l'arc-en-ciel comme signe ? Ils disent « Dieu ne nous punira pas ». Il y a eu le déluge, il y a eu la punition de Sodome et Gomorre, donc c'est un signe chrétien. C'est un signe biblique qu'ils ont pris. Et ce n'est pas pour rire. Dieu ne nous punira pas. Oh, Dieu a bien promis qu'il ne punirait plus, ni à la manière du déluge, ni à la manière de Sodome et Gomorre. Mais il nous a mis devant notre liberté et au jugement de à notre propre jugement personnel au moment de notre mort. Si les uns ont bien compris qu'il manquait de charité à coucher avec les uns, à coucher avec les autres, et si ils n'ont pas compris qu'ils étaient appelés à dominer leurs tentations et qu'ils ont pris les autres comme des instruments avec mépris, alors ils sont pécheurs. Mais si vous avez des personnes pour des problèmes d'imagination, de fixation de beauté, d'insensibilité à la beauté féminine ou masculine des unes et des autres, des blessures d'éducation, des blessures de violence, et qu'ils ont telle ou telle tendance sexuelle, mais qu'ils comprennent que il y a beaucoup d'impasses dans ces pulsions, et qu'ils luttent honnêtement, eh bien le catéchisme de l'Église catholique dit qu'il n'y a pas de... Il n'y aura pas, comment dire, Dieu les accueillera. Mais c'est justement le problème d'une sorte de fierté de ce qui en eux est faible. L'Église ose dire que c'est déréglé. Mais ce n'est pas leur jeter la pierre. Et pendant des siècles, l'Église a toujours invité tous ceux qui ont des problèmes. Et puis il n'y a pas que ceux qui auraient des tendances homosexuelles. Vous avez des personnes qui sont très sensuelles et qui ont beaucoup de difficultés à être fidèles à leur épouse ou même à se marier et aller de femme en femme. Pourquoi on somnubile sur la tendance homosexuelle alors que vous avez, il n'y a qu'à voir les affiches, les films, vous avez... Nous sommes tout aussi... l'hétérosexualité est tout aussi déréglée. Enfin, il y a un problème. Parce que dominer sa sexualité pour arriver à l'amitié et à l'amour... Voyez. En tout cas, voyez-vous, ce signe de l'arc-en-ciel, c'est en effet Dieu qui ne punira plus. Et nous allons commencer dans l'année de la miséricorde. Alors que nous sommes dans la confusion complète, X fois le bon Dieu aura rappelé qu'il veut pardonner. À nous aussi d'arrêter de faire n'importe quoi. Je reviens à l'histoire sainte. L'arc-en-ciel et Noé sort. Il n'y a que 8 personnes survivantes. L'humanité repart de ces 8 personnes. Alors, on peut en parler de différence. Nous sommes ou descendants de Sem, ou descendants de Cam, ou descendants de Japhet, tout en étant descendants d'Adam et Ève. Et vous avez le livre de l'Exode qui décrit la manière dont à nouveau ils se sont mariés, à nouveau ils se sont mariés entre frères et sœurs. Donc, l'interdit de l'inceste entre frères et sœurs n'était toujours pas là. Et quand ils se sont multipliés, ils sont partis les uns et les autres. Eh bien, avant de se séparer, Noé va, au lieu de boire comme il faisait habituellement du jus de raisin, il a laissé ce jus de raisin. Mais la science infuse, pour les œnologues, Adam ne savait pas faire du vin. Noé non plus. Il a découvert le jus de raisin fermenté. Il en a bu, il a trouvé ça bon, et il s'est enivré sans le vouloir. Et il était ivre mort. Et il est sorti en titubant, et il était nu. Et Cam s'est moqué de son père. Il faut savoir qu'à la sortie de l'arche, l'arc-en-ciel est la bénédiction divine. Cam, lui, déshonore son père. Pêche contre son père. Et vous avez Sam et Japhet qui prennent le manteau de Noé et qui le couvrent. Ça sera une notion théologique, le manteau de Noé. Je ne sais pas si on aura le temps de la retrouver. Et quand Noé reprend ses esprits et qu'apprend que Cam s'est moqué de la nudité de son père, il dit, je ne peux pas te maudire parce que Dieu t'a béni à la sortie de là, mais je veux que ton péché soit maudit dans tes enfants. Alors on me dit, oh là 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 là, mon père, vous n'allez quand même pas être d'accord avec ça. Eh bien, avec une interprétation plus fine, la malédiction, c'est manifester le péché. Et alors, c'est un peu acrobatique, je vous conviens, j'en conviens, que les enfants de Cam aient été plus pécheurs dans un premier temps que les enfants de Sem et de Japhet montrent son péché. La malédiction, c'est son péché. Et de rester dans le péché et de ne pas vouloir se convertir, c'est ça, en quelque sorte, une malédiction. Voilà. Vous voyez ? Pour pas être janséniste ou... Cam va partir en Terre Sainte, va partir en Afrique. Sem reste près du Tigre de l'Euphrate, va en Terre Sainte et en Arabie, s'il vous plaît. Vous avez des peuplades arabes d'Arabie Saoudite. Vous avez des Jordaniens qui sont des Sémites. Et Japhet, lui, va vers l'Europe et le Caucase. Et alors, il y a une tradition orale qui dit que Noé a eu d'autres enfants et que cela a donné les Asiatiques. Et que Noé est parti vers l'Asie. Et c'est une tradition persistante que je salue. Voilà. Mais ça, on verra à la fin des temps. Le monde biblique nous dit que Sem reste près du Tigre de l'Euphrate, qu'il va occuper la Terre Sainte, qu'il va occuper la Chaldée et la Terre Sainte. Mais la Terre Sainte est surtout occupée par les descendants de Cam, Canaan, les Cananéens. Et les Cananéens vont être très présents. Vous avez la bande de Gaza, ce sont des descendants des Cananéens qui sont les Philistins. Décidément, ça fait 3500 ans qu'ils se foutent dessus. Entre Sémites et Cananéens. Voilà. Japhet, nous, on s'en va en Europe. Voilà. Et dans le Caucase. À mon avis, c'est plus les Asiatiques sont plus des descendants de Japhet, qui partent du Caucase et qui, entre les Slaves et les Asiatiques, n'oublions pas que les Asiatiques partent jusqu'au détroit de Bering et vont occuper l'Amérique vierge de toute humanité. Le croissant fertile, c'est le berceau de l'humanité. C'est pas en Afrique, c'est en Asie mineure. Et tout, on se répand. Et parmi les descendants de Sem, il y a Héber. Ça donnera une branche des Sémites qu'on appelle les Hébreux. Et un des descendants d'Héber sera Abraham, qui vit à Ur, en Chaldée. Mais avant Abraham, les hommes, justement, avant cette dispersion des enfants de Noé, il y a une corruption qui vient. Parmi les descendants de Noé, il y a ceux qui vont être fidèles à la foi d'Adam. Mais cette corruption va faire ce qu'on appelle la tour de Babel. Babylone. À nouveau, nous sommes entre le Tigre et l'Euphrate. Le berceau de l'humanité. Et ils disent, nous sommes puissants. Dieu a voulu nous exterminer au déluge. Dieu est notre ennemi. Les démons nous le disent. Les esprits nous le disent. Nous sommes autosuffisants. Adam et Ève ont bien eu raison de pécher. Nous allons montrer à Dieu notre puissance. Nous allons construire une tour qui montera jusqu'au ciel pour insulter Dieu. Et Dieu qui les regarde, aha. Et il va alors que l'homme avait une seule langue, la langue adamique, il va disperser les langues. Il va, dans un miracle dur, n'est-ce pas, susciter des langues différentes dans les descendants de Noé. Alors vous avez l'indo-européen pour les Japhet, vous avez ce qu'on appelle l'araméen ou l'hébreu. Vous avez des langues qui ont des racines quand même bien différentes. Top ! C'est deux fois la dispersion des langues, ou c'est avec le temps que tel peuple, telle ethnie ont réinventé une langue, des phonèmes ? Chiche. Ah oui, mais les concordistes disent que c'est absolument deux fois la dispersion des langues et tout. C'est pas nécessaire pour le salut de votre âme. Et ça n'a pas été élevé au dogme. Oui, mais c'est écrit noir sur blanc dans la Sainte Écriture. Là, ça peut être imagé. Oh oui, mais enfin, si vous dites que Adam et Ève, c'est pas imagé, que la dispersion des langues de Babel, c'est imagé, alors on va rien comprendre. Eh bien, à titre personnel, je pense que ce n'est pas imagé, la dispersion des langues. Et que l'historicité de la tour de Babel est authentique. Et oui, mais vous êtes un mystico-dingo, monsieur l'abbé, mon père. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire de la tour Eiffel? En effet, et je vous parlerai un moment de la franc-maçonnerie, la tour Eiffel est la tour de Babel. Terminée. Ceux qui l'ont faite étaient des personnes, non pas athées, au contraire. Certains étaient peut-être athées, mais ils détestaient Dieu. Et ils voulaient symboliquement faire la tour de Babel. Alors mon père, on va détruire la tour de Babel, on va la plastiquer, vous allez terminer en tôle. Non, parce que la tour Eiffel est une œuvre de l'intelligence humaine, œuvre de l'intelligence divine. Donc indépendamment de l'intention du constructeur et de l'architecte, elle a sa beauté. Elle a son gigantisme qui est toujours impressionnant. Non. Je ne vais pas demander est-ce qu'on la fasse sauter au nom de, d'une croisade anti-Tour Eiffel et anti-babylonienne. Merci mon père. Mais vous savez déjà, avec ça, vous irez peut-être en tôle. On verra. Il n'empêche que cette tour n'a pas pu être achevée et que les peuples se sont dispersés. Tour de Babel. Et voilà que les siècles passent et que nous arrivons à Abraham. Ah bon, vous passez vite. Oui, on ne peut pas tout dire. Et voilà qu'Abraham, il est en Chaldée. Ça ne vous dit rien, la Chaldée, l'Irak, en ce moment, c'est... Vous savez, le tourisme est très développé en Irak en ce moment. Vous faites des bouquets, il y a des feux d'artifice tout le temps, c'est très touristique. Eh bien, figurez-vous que là, il y avait les descendants de Japhet. Il y avait des descendants de Sem, quelques descendants. Abraham est descendant de Sem. Il y a des Sémites. Et ils pratiquaient le sacrifice humain. Pour adorer leurs dieux, leurs idoles, leur puissance de l'eau, leur puissance du feu, leur puissance de l'agriculture, leur puissance de l'élevage. Vous voyez, les Égyptiens, eux, s'étaient totalement jetés là-dedans. Des Cananéens, les Égyptiens. Et ils étaient dans l'adoration du Nil, ils étaient dans l'adoration des crocodiles, des ibis, des aigles. Des singes. Et ils avaient une vénération pour les démons que vous ne soupçonnez pas. Ils pratiquaient une sorcellerie très fine qu'on va revoir avec Moïse. Mais voyez-vous, alors vous êtes complètement mystico-dingo, vous croyez en la sorcellerie, vous croyez qu'il y a des gens qui invoquent les démons, les esprits. Ben oui, bon. Le père du Loisic, exorciste du diocèse de Paris, aussi. Comme ça, on sera deux en tôle. Voilà, au moins. on jouera à la bataille. Et puis si on a le troisième et quatrième, on fera un bridge et voilà. Ou un poker, je ne sais pas. Et donc, je dédramatise, hein, mais ce que je vous dis n'est pas très drôle en soi, hein, sur le fond. Donc, Abraham, il voit des sacrifices humains et il les refuse. Il est de la religion d'Adam. Et il reste saint. Il reste pieux. Et Dieu lui parle. Il lui dit, tu vas sortir de ton pays. Je t'emmènerai loin d'ici. Et tu seras le père d'une multitude. Tu t'appelleras Abraham, le père d'une multitude. Il change le nom d'Abraham, qui je crois est père, veut dire. Abraham, c'est père. Et Abraham, père d'une multitude. Et Abraham part avec sa femme Sarah, avec, son frère, son oncle, fils de son frère. Je crois qu'il faudrait que je révise avant de venir quand même. Lot est le fils de son frère, je crois. Son neveu quand même. Et il part avec ses bergers. Mais il a 300 bergers. Il est riche, Abraham. Hein, et il s'en va. Imaginez la tête des autres. Il y a une petite tradition synagogale très intéressante qui dit que Abraham a failli être sacrifié aux idoles et qu'on l'a jeté dans un brasier comme les trois Hébreux. Plus tard, hein, du temps de Babylone. Mais plus tard, le temps de l'exil et tout ça. Et qu'Abraham aurait été miraculé de ce feu. Bon. Abraham part. Il fait une étape. Je passe. Et il arrive en Terre Sainte. Et Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Regarde les étoiles du ciel. Regarde le sable. Tes enfants seront plus nombreux. Vous avez une émission qui s'appelle « Les fils d'Abraham ». En effet, Abraham, qui a la religion adamique, le monothéisme qui n'est pas apparu avec le temps. Nos ancêtres n'étaient pas de débiles qui adoraient les arbres. Nos ancêtres étaient monothéistes. C'est par dégénérescence qu'on devient polythéiste et superstitieux. C'est par dégénérescence qu'on fait des sacrifices humains. Abraham, lui, est monothéiste. Il parle à Dieu et Dieu lui dit qu'il va être le père d'une multitude. Sauf que le temps passe. Voilà qu'il achète un terrain, hein, près du chêne de Mambré. Et que le temps passe. Et il est là en Terre Sainte, promise par Dieu, la terre promise, et il n'a pas d'enfant. Ça fait bizarre quand même. Ce riche patriarche qui n'a pas d'enfant et à qui Dieu a promis une multitude d'enfants. Alors, vous allez me dire que je me contredis. Non. Dureté des mœurs, Jésus le dit, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Eh bien, c'est à cause de la dureté de l'humanité que l'homme est devenu polygame, à l'image des premiers pécheurs. Et Abraham cède. Il dit, puisque ma femme n'a pas d'enfant, eh bien je vais prendre une deuxième femme. Et pour qu'elle ne soit pas une concurrente à ma première femme, à ma femme légitime, je prends une femme de second rang, une servante de mon épouse. Agar. Et elle n'est pas stérile comme Sarah. Elle a un enfant et elle a d'autres enfants. Le premier-né, c'est Ismaël. Mais Dieu apparaît à nouveau à Abraham et lui dit, tu vas avoir un fils et de ce fils descendra les croyants. Abraham dit, c'est Ismaël ? Non, de ta femme Sarah, la femme légitime. Ah oui, mais enfin, j'ai 80 ans maintenant, elle en a 80 aussi. Et Sarah qui écoute se met à rire. Elle entend Dieu parler à son mari. Donc le miracle est un miracle sonore. Et elle rit dans son coin, derrière la tente. Je viens d'avoir un enfant, j'ai 80 ans. Alors vous me direz, je me contredis. L'âge des patriarches avant le déluge, la fécondité avant le déluge était importante. Noé vécut encore après le déluge longtemps. Et ses fils ont vécu longtemps. Mais à un moment donné, si vous voulez, Dieu leur dit, après le déluge, 120 ans sera l'âge de l'homme. Et voilà que, comment dire, il rit, bon, elle rit, et Dieu dit, mais puisque elle rit, ta femme, tu appelleras ton fils Isaac. Joie, bonheur, rire. Et un an plus tard, Isaac va naître. Et la femme de second rang va être jalouse. Ismaël va embêter Isaac. Parce que il est l'aîné. Mais pas selon la légitimité du patriarche. Et à un moment, Sarah va arriver. Il va voir Abraham et dit, chasse l'esclave et son enfant. Alors Abraham, la mort dans l'âme, chasse son épouse de second rang et l'enfant. Il lui donne un peu d'eau et il part dans le désert. Et elle n'arrive pas à trouver de l'aide. Et elle manque de mourir avec son enfant. Et Dieu envoie Gabriel, je crois, qui sauve l'enfant et la mère. C'est pour ça que les peuples arabes, sémites, ont une grande reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et qu'ils sont croyants. Mais qu'ils vont être vexés de la primauté d'Isaac. Parce que Dieu va dire à Abraham, maintenant que tu as ton fils, eh bien maintenant, tu m'as fait confiance. Je voudrais éprouver ton amour vis-à-vis de moi et ta confiance. Redonne-moi ton fils. Et là, Abraham dit, j'ai eu déjà beaucoup de mal à l'avoir. Je croyais maintenant que c'était lui qui donnerait la descendance. Et il va mourir. Eh bien, ça. Et saint Paul nous révèle, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, que lorsque Abraham s'est résolu à offrir son fils au Tout-Puissant, à l'image des païens, qui pour avoir de bonnes récoltes tuaient leurs enfants, mais dans le principe de la toute-puissance, de la maîtrise de la vie et de la mort, saint Paul nous dit qu'Abraham, lui, croyait en la résurrection et croyait que Dieu le mettait à l'épreuve et qu'il ressusciterait Isaac. C'est beau, ça. Tout de suite, plus tard, Abraham ne crois pas en la cruauté de Dieu et crois qu'il y aura une résurrection. C'est saint Paul qui nous le dit. Et ça, alors là, tous les commentateurs de la Bible, je les renvoie tous et je leur dis, saint Paul nous dit quelle a été la pensée d'Abraham. Oh, mais c'est une interprétation personnelle de Paul. C'était un bonhomme, à moitié dingue, qui poursuivait tous ceux qui étaient contre lui, puis qui s'est converti, on ne sait pas trop comment. C'était un hystérique, hein, ou un schizophrène. C'est pas respectueux pour saint Paul, hein, qui dit justement qu'il était de bonne foi et qu'il avait peur que Jésus ne soit pas le Messie et que ses frères soient dans l'erreur. Et à l'époque, les mœurs étaient dures. La religion, si vous voulez, ça se défendait fortement parce qu'elle avait l'équilibre social derrière. Eh bien, Abraham part avec son fils, avec du bois. Il fait porter le bois par son fils. Quel signe incroyable! Et il prend un couteau. Et là, il y a Isaac qui dit à son père, « Et où est l'agneau, le bœuf, le mouton, le... » Enfin, on va... Et Abraham dit à son fils, « On le trouvera sur la route. Dieu y pourvoira. » Et ils arrivent sur le mont Sion. Ça vous dit quelque chose, peut-être. Sur un rocher. Actuellement, il y a la mosquée d'Al-Aqsa qui est au-dessus du rocher. Ça vous dit peut-être quelque chose. À cet endroit-là, on mettra l'autel du temple de Salomon. Ça vous dit peut-être quelque chose, Salomon, Jérusalem, un peu. Oui, non. C'est sur ce rocher qu'Abraham met le bois et demande à son fils de se poser sur le bois. Et son fils accepte. C'est son père. Et alors qu'il lève la main, vous avez l'archange Gabriel qui arrête le bras d'Isaac, d'Abraham, qui lui désigne un bouc et qui lui dit « La promesse que Dieu t'a faite, oh oui, il va l'accomplir. Regarde les étoiles dans le ciel. Tous ceux qui seront croyants à cause de toi, grâce à toi, seront plus nombreux encore. Car tu as été fidèle, tu as eu la crainte de Dieu, tu as eu la confiance, tu as eu confiance en Dieu. » Et ouf, l'enfant il est bien content. Mais les futurs musulmans, dont je vous parlerai un jour, disent, « Oh ben ça c'est nos frères de la branche aînée qui ramènent toujours tout à eux. Et nous sommes dans la branche aînée par le sang. Et c'est pas Isaac, c'est Ismaël qui a failli être sacrifié. C'est nous. Hein, voilà. C'est nous qui sommes concernés par le sacrifice. Historiquement, non. La synagogue, l'église considère que c'est Isaac et pas Ismaël. Et voilà que je vais achever sur cela en vous disant, quand Jésus parle de son père, il parle souvent des noces, il parle souvent des noces de l'agneau, de cette victime dont on parlera pour la Pâque du temps de Moïse, mais ce soir ça serait 23h, hein, donc je vais m'arrêter là. Mais ce qui est beau, voyez, c'est que, si vous voulez, Isaac, c'est Jésus. Abraham, c'est le Père. Et que il sacrifie son Fils pour nous. Il demande à son Fils de bien vouloir mourir sous le couteau du péché de l'homme pour ressusciter. Pour détruire la mort, pour détruire le péché, pour détruire la haine, pour détruire l'égoïsme, pour détruire la maladie. Et toutes les religions superstitieuses, ayant peur de Dieu, faisant des sacrifices humains, sont balayées par le signe d'un sacrifice qui n'est pas un sacrifice cruel, mais un sacrifice de... rachat, de rédemption. Le prix de l'innocence du véritable agneau sacrifié par Abraham, enfin c'était un bouc dans les ronces, hein. Mais c'est le bouc émissaire, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'innocence infinie du Verbe du Père à qui il a demandé de se faire petit bébé et de naître d'une femme de la nouvelle Ève, pour être le nouvel Adam, et pour être comme Abel, tué par Caïn, pour être comme Isaac, qui meurt, cette fois-ci, en portant le bois, non pas de l'Holocauste du Mont Sion, mais le bois de la crucifixion du Golgotha. Au-dessus du crâne d'Adam, du corps d'Adam, pour redonner vie, et pour que le sang du Christ ressuscité coule à nouveau dans les veines d'Adam et ressuscite. Et qu'il y ait l'accomplissement de la promesse. La descendance t'écrasera la tête Et là, on est dans la descendance d'Adam. Nous en sommes à Abraham, nous en sommes à Isaac. Et si d'ici là, j'ai perdu la tête, vous me rappellerez, on en était à Isaac. Remontez pas trop avant non plus. Hein, continuons un peu, parce que sinon on va être... Isaac, signe du sacrifice du Père, qui offre son fils pour ses autres enfants, pour les sauver, ses autres enfants. Parce que le Père nous aime tellement qu'il a demandé à son fils de bien vouloir accepter de mourir pour nous. Et voilà, c'est impressionnant, hein, la foi biblique. Et dire qu'il y a 2 milliards à 3 milliards d'hommes actuellement sur 6,5 qui descendent de cette tradition biblique. Et bien figurez-vous que Enoch et Élie viendront à la fin des temps pour sauver le plus grand nombre d'âmes, des hindous, des shintoïstes, des bouddhistes et tout ça, pour leur dire toutes vos inspirations d'amour familial et tout ça, de respect de vos ancêtres, tout ça. Trouvez l'amour du Père, trouvez l'amour du Fils. Oui.
Vous pouvez nous dire deux mots sur cette phrase « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ».
Eh bien, à cause du péché originel, nous avons perdu l'impassibilité, l'immortalité, l'intégrité. Et la science infuse, nous n'avons qu'un reste par notre nature capable d'abstraction, mais nous sommes ignorants. Nous devons tout à apprendre. Mais seulement, voyez-vous, malgré la maladie, malgré les maladies génétiques, malgré nos souffrances, le vieillissement, eh bien, voyez-vous, nous avons la promesse de la victoire sur cette caducité humaine. Dieu nous a créés libres, il a pris le risque du péché, ce risque s'est réalisé par notre liberté. Mais du coup, il nous a démontré encore peut-être plus d'amour que si nous n'avions pas péché. Ô Félix culpa, ô bienheureuse faute, c'est parce que finalement Dieu a été encore plus généreux encore après ce péché. Et on dit justement, il nous a créés de manière merveilleuse et il nous a rachetés de manière plus merveilleuse encore. C'est la prière de la bénédiction de l'eau pendant la messe. Vous voyez ? Quand on met la goutte d'eau dans le calice, le prêtre fait une prière. Hein ? Toi qui nous as créés de manière merveilleuse, c'est quand même impressionnant la nature humaine, et qui nous a rachetés d'une manière plus merveilleuse encore. Vous vous rendez compte, la Sainte Trinité, dans sa béatitude éternelle, est venue jusqu'à nous. Figurez-vous que le scandale des Juifs, ceux qui sont appelés Juifs de nos jours, et des musulmans, c'est de se dire, mais comment pouvez-vous dire que Dieu a franchi le ravin qu'il y a entre le Créateur et la créature? Ce n'est pas possible. Vous déshonorez Dieu. C'est indigne de Dieu de se moucher, de se laver, d'aller aux toilettes comme Jésus. Eh oui, et pourtant, Jésus a voulu être un bébé que la Vierge Marie a lavé. Jésus a voulu manger. Jésus a voulu laisser dans le coin secret, comme il dit, ce qui descend de la nourriture. Pourquoi ? Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit que c'était bon. Et quand il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Et nous ne devons pas devenir des puritains ou des jansénistes. Nous devons vivre avec notre corps, nous devons vivre avec notre nature et en tirer ce qu'il y a de plus beau. Je ne vais pas vous dire de plus vous coiffer. De toute façon, alors là, vous direz, fini, je ne viendrai plus, c'est fini. En plus, il nous dit de plus nous coiffer. Oh, méprisez ce corps qui vous tente, qui vous pousse à désirer de l'or, de l'argent. Et voyez-vous, dans le voile d'antan, Dans le fait que saint Paul nous demande d'être voilé, n'est-ce pas? C'est pour la pudeur, c'est pour ne pas aguicher l'œil de ces messieurs de l'autre côté, des bancs de l'église et tout ça. Mais voyez-vous, vu les temps dans lesquels nous vivons, ben c'est plus important. Alors là, c'est l'inverse. Là, je vais avoir des personnes qui disent « Quoi, monsieur l'abbé, vous n'allez pas rétablir la mantille à Saint-Eugène ?» C'est « Il y a plus important. » Oui, mais il y a plus important. Voyez. Et on a raison de se coiffer. On a raison de se faire beau le matin. On a raison de se faire belle le matin. Parce qu'il y a dans la nature humaine l'aspiration à cette beauté. Et lorsqu'on est... Moi, j'ai vu aujourd'hui une personne au dos cassé, vous voyez, elle a, je sais plus, à 85, 90 ans, elle est toute voûtée. Eh bien, je veux, vous voyez, qu'elle retrouve un beau corps à la résurrection. Oui. Alors, il y a des personnes qui vous demanderont peut-être à Dieu, j'aimais beaucoup mon visage avec des belles rides. Je voudrais... dans la vie éternelle, avoir ce visage-là. Bon, ben peut-être que le bon Dieu donnera à telle ou telle âme le corps qu'elle veut, l'apparence corporelle qu'elle veut. Seulement dans la résurrection des corps, le modèle, c'est la résurrection du Christ. Il n'y a plus d'imperfection. Il n'y a plus de maladie. Le corps est dans sa beauté et dans sa maturité dans la vie éternelle. Les bébés ressuscitent adultes, les vieillards ressuscitent adultes dans leur maturité. Les trisomiques ressuscitent sans maladie. Les aveugles ressuscitent avec des yeux. Parce que c'est une promesse, un pacte de sel, comme dit la Sainte Écriture. Dieu nous a fait vivre l'épreuve et il nous récompensera d'avoir aimé malgré l'épreuve. Car Dieu ne se laisse jamais dépasser en générosité. Oui, vous vouliez une autre question?
Ok. Et à un moment, il y a eu une rivalité au XIIe, XIIIe siècle. Certains disaient que le Christ était le plus bel enfant du monde. Mm-hmm. Et il y avait une autre école, au contraire, qui disait qu'il était caché derrière un physique un peu...
Oui, mais ça, c'est du pré-jansénisme. Jésus est le plus beau des enfants des hommes. À chaque fois qu'il apparaît, il apparaît très beau. Aussi bien à des hommes qu'à des femmes, hein, c'est pas le problème. Et Jésus était grand. Vous savez, sur le suaire, il fait 1m80 au moins. Or, 1m80 à l'époque, c'était pas mal. Vous voyez ? Non, il faut pas. Et puis la beauté est quelque chose quand même de culturel aussi. Il ne faut pas non plus s'accrocher à tel ou tel visage. Pour Dieu, tous les visages sont beaux. Et c'est par orgueil ou par vanité que nous sommes trop tristes de notre visage en nous disant « Oui, mais selon les canons et les coutumes du pays où je vis, je ne suis pas beau. » Oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Vous avez des gens qui ne sont pas beaux selon les canons de telle ou telle culture, mais dont les yeux et l'âme sont d'une telle beauté que... Alors c'est romantique ce que je vous dis, mais c'est authentique.